Bonjour Toufik, bonjour à tous. La grève à la SNCF serait-elle en train de s'étioler? La CFDT Cheminots demande en tout cas à suspendre le mouvement pour le baccalauréat la semaine prochaine. Tollé de la CGT à quelques heures d'une réunion intersyndicale. Les divisions apparaissent, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur les vifs échanges entre Emmanuel Macron et les dirigeants italiens, chacun se rejetant la faute du non-accueil de certains migrants. Le bateau humanitaire l'Aquarius se dirige finalement vers l'Espagne. Et puis en Allemagne, Angela Merkel a affronté hier de fortes turbulence sur les réfugiés, justement. La chancelière s'oppose à une réforme de son ministre de l'Intérieur qui vise à restreindre l'accueil des migrants. Et de 30e jour de grève par intermittence à la SNCF aujourd'hui contre la réforme ferroviaire du gouvernement, alors que ce texte doit être définitivement adopté à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puis demain au Sénat. Côté trafic, la direction annonce en moyenne 2 TGV sur 3, 3 Transiliens sur 5, 1 TER et 1 Intercité sur 2. Cette grève va-t-elle durer? Les 4 grandes fédérations de cheminots ont prévu une nouvelle intersyndicale cet après-midi et l'unité ne semble plus de mise après l'appel unilatéral hier de la CFDT Cheminots. Appel à suspendre la grève les 18 et 22 juin prochains, la semaine prochaine donc, jour d'épreuve du baccalauréat. Les réactions des autres syndicats ont été immédiates, Raphaël Ebenstein.
Ça va barder cet après-midi, confie un cadre syndical ulcéré parce qu'il considère comme un petit numéro en solo de la CFDT Cheminots qui suscite d'autant plus d'incompréhension qu'elle avait rejeté la semaine dernière une proposition similaire de l'UNSA de suspendre la grève au moins le 18 juin, jour des premières épreuves du bac. Bref, la CFDT est soupçonnée de préparer tout simplement sa prochaine sortie de grève, des soupçons qui n'épargnent d'ailleurs pas non plus l'UNSA et pourtant... C'est avec ces deux seuls syndicats que la CGT va discuter aujourd'hui de la suite du mouvement avant l'intersyndicale officielle. Autrement dit, sans la présence de Sudrail. Sud, accusé dans un tract cégétiste cette semaine de vouloir créer l'illusion de la radicalité, d'avoir choisi la tactique de la division en sortant pendant 2 jours du calendrier de grève initialement établi. La CGT voudrait d'ailleurs étendre ce calendrier au-delà du 28 juin, mais sans aucune certitude, voire sans aucune chance d'être suivi.
Une paire de lunettes entièrement remboursée tous les 2 ans à partir de 2020. Le gouvernement devrait s'y engager selon nos voisins de France Info. Et cela par la voix d'Emmanuel Macron au congrès de la mutualité ce matin. Le président en avait fait une promesse de campagne. Il annoncera aussi le zéro à charge, le zéro reste à charge. Soit le remboursement total pour les lunettes donc, mais aussi les prothèses auditives et dentaires. Emmanuel Macron pour qui les aides sociales en France coûtent, je cite, un pognon de dingue. Sans résoudre la pauvreté en France. Philosophie exposée dans une vidéo postée sur Twitter hier soir, il devrait l'évoquer ce matin et s'expliquer donc. Anticor demande l'ouverture d'une enquête pour vérifier la transparence et la probité des comptes de campagne de 4 candidats à la présidentielle de l'an dernier. Dans sa plainte qui doit être déposée ce matin, l'association anticorruption vise Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Cela fait suite aux révélations de plusieurs médias dont Radio France, révélation que sont allés éplucher qui avaient épluché les factures de la Commission nationale des comptes de campagne. Lui a dépassé le stade de la plainte. Jean-Marie Le Pen est convoqué au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Le cofondateur du Front National, qui a été rebaptisé par sa fille Rassemblement National, le cofondateur donc est jugé pour provocation à la haine et à la violence envers les homosexuels, jugé également pour injure publique. Il avait déclaré en décembre 2016 que la pédophilie a trouvé, je cite, ses lettres de noblesse dans l'exaltation de l'homosexualité. Jean-Marie Le Pen aura 90 ans la semaine prochaine et il a toute sa vie été marqué par ses provocations et ses procès, comme le rappelle l'ancien rédacteur en chef du Canard enchaîné, Louis-Marie Auraud.
Le Pen a un goût particulier pour la procédure. Il a intenté lui-même des dizaines et des dizaines de procès. Il occupait ses avocats quasiment à plein temps. Des procédures qui étaient initiées par lui, mais aussi des procédures dont il était l'objet, notamment pour les dérapages. Tous ces procès ont vraiment été aussi un marqueur dans sa vie politique. Je ne crois pas qu'il y ait un autre homme politique de premier plan qui a eu autant à fréquenter les prétoires. soit comme plaignant, soit comme accusé, enfin soit comme prévenu.
Et il est présent lors de ces procès
Très souvent, en tout cas ceux auxquels il tient, il est présent. Et dans plusieurs procès qu'il a eu contre le canard, plusieurs fois il a assisté au procès, il était même assidu aux audiences, oui. C'est un genre de signature politique, en tout cas c'est une façon de se démarquer d'un bruit de fond politique qui lui paraît tiède, sans intérêt et inconsistant. Il se démarque en disant des choses avec brutalité, avec quelquefois grossièreté. Politiquement, ça lui sert.
Louis-Marie Auroux avec Anne Fauquemberg, Jean-Marie Le Pen et la justice, c'est un article à retrouver en longueur sur franceculture.fr. Qui dit vrai concernant les blocages de raffinerie dans le pays? La FNSEA demande la poursuite du mouvement après 3 heures de négociations hier soir au ministère. Le compte n'y est pas, dit le syndicat agricole avant une concertation interne. 18 sites sont toujours bloqués pour dénoncer les importations, notamment d'huile de palme. Et de son côté, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, se dit au contraire plutôt optimiste après ces négociations. Il espère la levée rapide de ces barrages. Et puis en bref, encore un homme de 26 ans, plutôt déboussolé psychologiquement selon les autorités. Cet homme a retenu hier pendant 4 heures 2 otages dans un immeuble parisien. Il a été interpellé par la police qui a libéré ses otages sains et saufs. Ballotté en mer Méditerranée, l'Aquarius navigue finalement vers l'Espagne en ce moment, accompagné par 2 navires italiens pour amener les 630 migrants sur la terre ferme. Après le refus de Malte et de l'Italie, la France a été pointée du doigt pour son silence assourdissant et son refus, sans le dire, d'accueillir ces migrants. L'exécutif français critiqué en interne par une majorité à l'Assemblée, par l'opposition de gauche, par la droite aussi et donc une partie de la majorité. L'exécutif qui a répondu s'en prenant aux Italiens. Le Premier ministre Édouard Philippe estime qu'ils ne respectent pas leurs obligations. Et le président Emmanuel Macron s'est aussi permis de critiquer les Italiens, Marie-Pierre Vérot.
Au cynisme et à l'irresponsabilité des Italiens dénoncés par Emmanuel Macron, Rome a répondu sur le même ton. L'Italie n'a pas à recevoir de leçons hypocrites de la France, qui a toujours préféré tourner le dos quand il s'agit d'immigration, à beau jeu de rappeler Giuseppe Conte, ajoutant que Paris a souvent fait preuve de rigidité et elle aussi de cynisme. La France s'est en effet montrée assez peu solidaire de l'Italie, ne transférant qu'un nombre minime de candidats à l'asile, restant sourde aux appels à l'aide, renvoyant dès que possible des migrants qui avaient franchi la frontière. Voilà qui augure d'une rencontre animée vendredi à Paris, où Emmanuel Macron reçoit le président du Conseil italien Giuseppe Conte. L'Élysée avait fait savoir que les questions migratoires, notamment celles de la frontière franco-italienne, source de frictions récentes entre policiers français et italiens, seraient au cœur de l'entretien. Il faudra désormais aussi trouver un langage commun en arrêtant les invectives entre 2 pays fondateurs de l'Union européenne. Sans doute un avant-goût des débats et du langage cash que promet de porter au niveau européen la nouvelle équipe aux commandes en Italie. Elle s'est attirée déjà les félicitations de la Hongrie, de Viktor Orban et de la Slovaquie, 2 des pays les plus en pointe dans le refus de tout accueil.
Le flux migratoire qui déchire l'Europe donc, qui déchire aussi les pays en interne. En Allemagne, la ligne de friction autour de ces questions traverse désormais ouvertement la nouvelle coalition et le parti conservateur de la chancelière, avec un duel au sommet, Nathalie Versieux.
Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, le tapageur conservateur bavarois Horst Seehofer, ne se sont jamais vraiment appréciés. Les tensions menacent de tourner au vinaigre avec la question des réfugiés. Seehofer, en campagne électorale en vue des élections régionales de Bavière à l'automne, défend une ligne de plus en plus radicale, prône la reconduction à la frontière de tout demandeur d'asile ne disposant pas de papiers ou étant déjà enregistré dans un autre pays. Seehofer réclame par ailleurs la construction de centres fermés dans lesquels les demandeurs d'asile devraient séjourner pendant toute la procédure d'examen de leur dossier. Angela Merkel, qui a déjà considérablement serré la vis à sa politique de l'asile, s'oppose au renvoi à la frontière qui aggraverait en bout de chaîne la crise migratoire en Italie ou en Grèce. Elle veut également maintenir le dispositif actuel qui permet aux demandeurs d'asile déboutés de faire appel dans 40% des cas la justice allemande casse finalement l'arrêt de l'Office des migrations. Conséquence de cette guerre des tranchées, Horst Seehofer a dû renoncer mardi à présenter les grandes lignes de son plan migratoire. En retour, il a annulé sa participation mercredi au sommet sur l'intégration organisé par la chancellerie.
Nathalie Versieux à Berlin pour France Culture. Nous revenons en France pour deux informations pratiques. Le trafic est totalement interrompu ce matin en gare de Saint-Lazare à Paris à cause d'une panne de signalisation. Et puis 13 départements sont sous vigilance inondation. Ce sont les suites des fortes précipitations de ces derniers jours. Des départements sur le nord-ouest de l'Eure à l'Ille-et-Vilaine et puis sur le sud-ouest du Lot-et-Garonne aux Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, le temps s'annonce plus calme, légèrement ensoleillé. Les températures comptaient 15 degrés à Paris, 16 à Lille, 17 à Rennes et Lyon, 23 à Perpignan.